Hebdo du jeudi 20 décembre 2018. Au sommaire, gros plan sur les conditions de travail des chargés de cours dans les universités québécoises. Ils sont plus de 11 000 à travailler dans les établissements de la province. Et depuis quelques semaines, ils font entendre leur mécontentement. Quelles sont les raisons de ce ras-le-bol? C'est ce que nous révélera Émilie Aubry dans un reportage à découvrir dans quelques secondes. À suivre également l'analyse ces sciences de notre économiste Audrey Azoulay sur les indicateurs de mesure de l'innovation. Et enfin, notre invité de la semaine, c'est Isabelle Foisy, présidente de Québec Innove, l'organisme qui rassemble l'expertise québécoise en recherche et en innovation. L'occasion d'un tour d'horizon avec elle en la matière en cette fin d'année 2018. Au micro, Philippe Regnoux, c'est l'Hebdo, c'est maintenant. Une de ce jeudi 20 décembre 2018, les conditions de travail des chargés de cours dans les universités de la province. Salut Émilie.
Bonjour Philippe.
Alors ça grince des dents depuis quelques semaines chez ces professionnels de l'enseignement. Il faut dire que depuis leur création, il y a 50 ans, leur nombre a explosé, mais les conditions de travail, elles, seraient rendues plus précaire, c'est en tout cas ce que rapportent certains syndicats.
Effectivement, ce sont plus de 11 000 chargés de cours œuvrant au sein de nos universités qui lèvent le ton pour obtenir des fonds de recherche. Tout d'abord, il faut saisir ce qu'est un chargé de cours comparativement à un professeur titulaire qui, lui, détient sa permanence et fait de l'enseignement son occupation professionnelle première. Le chargé de cours, lui, est à l'emploi en tant que professionnel d'abord dans un quelconque domaine et ajoute à son horaire une ou plusieurs périodes d'enseignement par année, par semaine également. Certains les surnommeront enseignants à double emploi, à temps partiel ou contractuel.
Donc, ce sont des personnes qui sont d'expérience sur le terrain, dans la vie réelle, et qui dispensent, en plus de ça, un enseignement. Sur le papier, ça paraît le meilleur des deux mondes, non, Émilie?
Oui, et c'est ça la beauté de la chose. Ces pédagogues ont un impact très positif sur les élèves, puisqu'en faisant le choix d'enseigner par pure volonté de transmettre leur savoir, les chargés de cours ont la réputation d'être particulièrement passionnés par ce qu'ils font. Toutefois, pour rester au fait des dernières avancées dans leur champ d'activité, ils doivent pousser leur travail bien au-delà des salles de cours et de leurs tâches quotidiennes au boulot. Ils réclament donc des fonds pour des projets de recherche. Monsieur Richard Bousquet, vice-président et responsable du regroupement Université à la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec, assure les représentations politiques auprès des organismes subventionnaires ainsi que du gouvernement provincial et fédéral pour tenter de remplir les enveloppes budgétaires à l'endroit des chargés de cours. Il nous explique en quoi ces fonds sont primordiaux. On l'écoute.
Les chargés de cours ont à peu près tous la nécessité, l'obligation de se mettre à jour. Ça peut être par de la formation continue, ça peut être par de la pratique continue. Un chargé de cours qui enseigne le journaliste, il doit être au fait de la crise que traversent les médias. Il doit aussi être au fait de ce qui se développe en intelligence artificielle. Parce qu'un jour, l'intelligence artificielle va venir s'insérer dans le travail journalistique. Si on prend des chargés de cours en biologie, en chimie, en sciences, souvent c'est les doctorants qui doivent poursuivre leur recherche de cette partie-là de leur travail, n'est pas financée.
Alors Émilie, la question brûle les lèvres. Pourquoi les chargés de cours n'ont pas les mêmes avantages que les autres enseignants, en l'occurrence les professeurs titulaires?
J'ai contacté le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, de même que les fonds de recherche du Québec, mais suis demeurée sans réponse de leur part. C'est pourquoi je me suis renseignée auprès d'Olivier Aubry, vice-président aux relations intersyndicales des chargés de cours de l'UQAM. Voici ce qu'il avait à dire.
Les organismes subventionnaires, ils vont donner des subventions sur 3 ans. Généralement, c'est pendant 3 ans qu'on a des subventions. Et le lien d'emploi des chargés de cours, c'est 2 ans. Donc, c'est toujours l'excuse que comme on n'a pas un lien d'emploi de 3 ans, ben on peut pas avoir de fonds de recherche. Un chargé de cours qui n'enseigne pas pendant 2 ans, il perd son lien d'emploi avec l'université. Donc, c'est si on poussait ce lien d'emploi à 3 ans, ben ça voudrait dire qu'il resterait quand même en lien d'emploi avec l'université, même s'il n'enseigne pas et par exemple qu'il fait de la recherche pendant cette période.
Il y a donc un pas à faire entre réclamer une meilleure sécurité d'emploi pour ceux-ci et rendre plus flexibles les conditions d'admissibilité au financement. Dans tous les cas, c'est auprès du gouvernement que les voix doivent s'élever pour voir la situation changer. Monsieur Bousquet nous parle des développements qui pourraient justement faire évoluer les choses prochainement.
Il y a plus de fonds de recherche fédéraux que de fonds de recherche au provincial, ou du moins sont plus gros. Et les fonds de recherche au fédéral, il y a une échéance bientôt, c'est l'élection fédérale de 2019. Et à ce niveau-là, dans le fond, on s'entend avec l'ensemble des professeurs au niveau du Canada et au niveau du Québec, pour dire que à cette élection-là, il va falloir qu'on revendique que les fonds de recherche soient augmentés.
Pour sa part, Christine Gauthier, présidente du syndicat des chargés de cours de l'Université Laval, représente 40 % de chargés de cours qui sont docteurs ou doctorants, c'est-à-dire qu'une personne sur deux au sein de son organisation est formée pour faire de la recherche, mais n'a pas accès aux fonds en conséquence. Selon ses dires, la requête va bien au-delà de l'aspect monétaire.
On souhaite aussi qu'on reconnaisse officiellement notre statut. Puis on parle pas d'argent, là, on parle vraiment de notre statut comme chercheur. C'est-à-dire que les chargés de cours sont aussi bien souvent des chercheurs, des spécialistes dans leur domaine. Alors, présentement, ça fait partie des revendications des syndicats de chargés de cours.
N'oublions pas que les chargés de cours n'ont aucune garantie et doivent postuler en vue de chaque nouvelle année scolaire pour parfois enseigner un cours qu'ils donnent depuis plusieurs années. Dans certains établissements, on écarte les chargés de cours des régimes d'avantages sociaux et ceux-ci n'ont aucune garantie en cas de maladie. Leur rémunération est fixe pour un cours de 45 heures, le salaire variant de 8 à 11 000 $ par session.
Une situation qui ne manquera sans doute pas de faire couler encore de l'encre en 2019. On a compris, hein, les élections au fédéral vont être dans la mire de nos chargés de cours.
C'est ce qu'on va suivre.
Professeurs.
Oui, effectivement.
On va suivre ça de près. Merci beaucoup, Émilie.
Merci.
Salut Audrey.
Bonjour Philippe.
Alors en cette fin d'année 2018, c'est l'heure des bilans. Tour d'horizon, que se passe-t-il?
Alors Philippe, comme tout économiste qui se respecte, je voulais terminer l'année en vous proposant un bilan 2018 de l'innovation au Québec. Alors d'avance, je savais que j'allais devoir calmer mon enthousiasme parce que je suis allée chercher les dernières publications, notamment en recherche et développement, en capital de risque, le niveau de diplomation, le personnel scientifique ou encore la publication de brevets. Alors premièrement, les statistiques les plus récentes ont souvent 2 à 3 années de retard. C'est le mieux qu'on peut faire, mais considérant la vitesse avec laquelle les choses évoluent, eh bien on est plus sûr de ce qu'elles peuvent nous dire. Et surtout, il faut ajouter que l'innovation ne se mesure plus aujourd'hui seulement comme un résultat ou même un volume. Elle est de plus en plus déterminée par la qualité de son écosystème, de ses processus, et on n'a pas grand-chose pour le mesurer. Alors, on l'a largement illustré ici même, sur le plateau de C'est l'Hebdo. L'innovation s'appuie sur un potentiel transversal, multidisciplinaire. Elle peut créer des ruptures, mais l'innovation est aussi incrémentale. On s'accroche à la propriété intellectuelle, mais en même temps, on ne se passera plus d'innovation collaborative, d'innovation ouverte. On mesure notre capacité à innover dans les institutions, mais on sait que tout dépend de l'art de la commercialisation. On embrasse presque sans compter la nouvelle vague technologique, mais on tient à renforcer sa contrepartie sociale et environnementale. Bref, l'époque simple et claire de l'Eureka est bel et bien terminée et il faut maintenant s'intéresser autant aux écosystèmes locaux qu'aux chaînes de valeur mondiales. Mieux mesurer l'intangible, la culture, la créativité ou encore la diffusion et l'impact de la connaissance.
Oula, n'en jetez plus, de gros défis en fait, tous aussi cruciaux on a l'impression pour guider finalement nos politiques économiques et sociales. Face à tant de défis, la question nous brûle les lèvres, par où commencer, c'est quoi la priorité?
Oui, effectivement, le chantier est grand. On peut déjà commencer à s'approprier la dernière édition du fameux manuel d'Oslo, sa 4e édition publiée en octobre dernier, qui propose à la communauté internationale un cadre commun pour mesurer l'innovation. Son annexe catégorise une longue série de mesures et on retiendra 5 grands chapitres, les activités d'innovation en tant que telles, la capacité d'innovation, le flux de connaissances, les facteurs externes et enfin les résultats de l'innovation. Alors, on mentionne qu'il est aussi important de capter l'innovation issue de la recherche et développement que celle qui est inspirée du terrain, et on insiste sur la nécessité de mieux mesurer les liens, la qualité des connexions entre les acteurs de l'innovation. Alors pour les passionnés, une autre référence, c'est le Global Innovation Index 2018, qui est publié également en octobre. Il propose 108 indicateurs pour classer 126 pays, le Canada en 18e rang. Ce Canada qui apparaît très fort sur les institutions de l'innovation et sur la facilité d'investir, mais qui perd son avance sur les indices de la créativité, de l'éducation et de l'environnement. Alors on n'a pas évidemment ces précisions à l'échelle provincial, mais on a là un panorama intéressant sur les déterminants de l'innovation. Et sans transition, Philippe, je voudrais juste finir avec un chiffre. Il ne dit pas tout, mais il est significatif. 47% des dépenses en recherche et développement mondial sont concentrées dans 2 pays, la Chine et les États-Unis, alors que ces 2 pays ne portent que 39% du PIB mondial. Le 3e pays est le Japon avec 9,5%.
Donc on comprend qu'un des vœux pour 2019, la bonne résolution, c'est plus de dépenses en recherche. Il faut garder le cap finalement.
Il faut garder le cap.
On précise que ces références, toutes les références de la chronique d'Audrey sont indiquées sur notre plateforme cscience.ca. Merci beaucoup Audrey.
C'est l'Hebdo, c'est science, toute l'actualité des talents innovants au Québec.
Salut Émilie.
Salut Philippe.
Alors chaque semaine, telle une lionne mue par la faim et la survie de l'espèce, tel le cacatoès accroché à sa branche, tu ne lâches rien en quête du job parfait dans la recherche et l'innovation. C'est le billet d'Émilie, la tête chercheuse.
je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce.
Alors, nous sommes le 20 décembre et dans quelques jours, c'est...
Noël!
Noël! Bon, Noël, maintenant, on va se le dire, ça retient plus l'attention pour les listes de cadeaux que pour la naissance de petit Jésus.
Malheureusement.
Oh, attendez. Émilie, quoi? Toi, tu me dis que ce que tu aimes, c'est t'asseoir sur les cuisses du Père Noël?
J'adore ça! Mon moment fort de l'année, surtout que c'est souvent mon oncle Pierre.
Coquine!
Sans commentaire.
Ouais. Et donc, qui dit liste de cadeaux dit dépenser beaucoup d'argent. Et là, les auditeurs vont me trouver un peu cruelle, car la chronique de la tête chercheuse s'adresse principalement aux chercheurs d'emploi. Donc, pas cool de dépenser de l'argent quand on n'a pas de travail.
Ah, voilà.
Mais
bonne
voilà.
Transition,
non,
bonne
c'est
transition.
Ça. Mais voilà, telle la mère Noël qui surprend le père Noël après sa tournée en lui faisant une danse du ventre. À mon tour de vous surprendre. Je vous ai dégoté une liste de cadeaux gratuits, mais très utiles pour vos proches et liés évidemment à la technologie. Alors, ma première idée, c'est un bon de dépannage informatique à offrir à votre grand-mère. Oh. Vous lui confectionnez une petite carte avec écrit dessus SOS, dépannage informatique, disponible 24 heures sur 24.
Écrit en gros, hein, évidemment.
Très oui. gros, très gros.
Même ma mère serait contente, je pense.
Tu vois?
Ben, salutations, elle va oui, beaucoup
oui,
apprécier.
Oui, est-ce qu'elle t'écoute chaque semaine?
Oh, bien sûr.
Waouh, bel hommage. Donc, généralement, vos grand-mères ou votre mère va juste vous appeler pour un problème qui va juste nécessiter de redémarrer l'ordinateur. Donc là, vous gagnez en crédibilité, puis ça vous a rien coûté. Histoire vraie, mon ami a voulu aider son grand-père avec son ordinateur. Elle lui expliquait donc comment naviguer sur un site internet. Uh-huh. Et elle en est venue à lui dire « ferme la fenêtre ». Il s'est donc levé, il est allé fermer la fenêtre du salon. Je t'assure
c'est
que c'est une
vrai.
Histoire vraie, je l'invente même pas pour la chronique. Laure, si tu m'entends.
Donc, salutations aussi.
Salutations.
Ah, c'est vraiment les
oui,
si, des fêtes. Hein.
Sinon, dans le même ordre d'idées, pourquoi ne pas offrir un bon pour aider votre mère avec Facebook?
Ah, voilà.
Parce que vous pourriez, par exemple, lui montrer la différence entre un message privé et un commentaire en public sur le wall visible par tous, même vos collègues de travail. Parce que si comme moi, votre mère vous a déjà appelé ma petite chouquette oui. en vous recommandant une crème pour l'acné en public oui. sur le mur. Il faut agir.
Malaise, voilà.
Hashtag
malaise.
Encore une fois, histoire très très vraie. Donc, vous comprenez le principe. N'oubliez jamais que c'est vrai. Comme le disait la chanson de Pierre Perret, on est toujours le con de quelqu'un, mais on est aussi toujours l'expert de quelqu'un. Et donc, chers auditeurs à la recherche d'emploi en sciences et en technologie, il faut reprendre confiance en vous. À défaut d'avoir un emploi avant les fêtes, vous ne dépenserez pas d'argent en cadeaux inutiles. Alors, cette chronique, c'est souvent pour parler d'emploi sans jamais vraiment parler d'emploi. Mais cette semaine, exceptionnellement, nous avons une offre à dire au micro. Québec Innove, qui vont prendre le micro. Dans
madame.
Quelques secondes, sont à la recherche d'un conseiller ou d'une conseillère en innovation.
Ah.
Donc, cette offre sera bien sûr sur le site de CSciences. Vous pourrez la retrouver dès cet après-midi.
Ben voilà de quoi bien entamer 2019.
Exactement.
Quand on trouve un poste comme celui-ci.
Donc voilà, appliquer. Ils sont à la recherche de talents. Et puis c'est ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment dépenser de l'argent pour Noël. Il faut se dépêcher de trouver un emploi. Donc allez sur le site de CSciences, ça vous évitera de dire la prochaine fois.
J'ai cherché, j'ai pas trouvé.
Merci Émilie, on rappelle, vous pouvez consulter évidemment notre sélection d'offres d'emploi recherche et innovation sur la plateforme csciences.ca et si vous avez des offres à publier, comme c'est le cas pour Québec Innove, eh bien tout simplement vous nous contactez via notre plateforme et on se fera un plaisir de relayer. C'est l'heure de notre invité. Cette semaine, Audrey, on reçoit Isabelle Foisy.
Oui, Isabelle Foisy, PDG de Québec Innove, un réseau qui regroupe sous une même bannière une centaine d'acteurs de recherche et d'innovation au Québec, notamment des organismes de recherche, d'intermédiation et d'innovation sociale.
Isabelle Foisy, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez pris la tête de Québec Innove en janvier dernier, un an donc. Un an pour mettre la machine en route. Est-ce que vous avez atteint la vitesse de croisière ou est-ce qu'on est encore en phase de démarrage en cette fin 2018?
Ah, on a fait beaucoup depuis janvier. Je dirais que c'est un marathon, donc les premiers sprints ont été faits, mais certainement qu'il y a encore beaucoup à faire.
Donc c'est lancé.
C'est lancé.
C'est lancé. Québec Innove, comme le rappelait Audrey, c'est un réseau qui regroupe donc une centaine d'organismes, recherche, innovation. Des réseaux dans le secteur, c'est pas ce qui manque. Au Québec, qu'est-ce qui vous distingue? Qu'est-ce que vous avez de plus?
Ben en fait, ce qu'on fait, c'est justement, ça peut sembler un peu complexe. Il y en a beaucoup, vous en parlez. On a fait le tour du Québec aussi. On entend beaucoup cette complexité-là. Donc, Québec Innove, ce qu'on veut faire vraiment, c'est de fédérer l'ensemble des différents réseaux, l'ensemble de l'écosystème pour justement permettre aux entreprises d'être encore plus habilitées à faciliter leurs innovations et les amener rapidement à trouver les bons joueurs pour les accompagner dans jusqu'à leur commercialisation.
La relation. Alors, je vais rentrer tout de suite un petit peu dans le détail. Isabelle, un de vos mandats, c'est d'élaborer des outils communs, justement, pour faciliter l'accès aux outils de l'innovation. Et il y en a un qui nous a interpellés, c'est celui de mettre en place des procédures ou des protocoles de propriété intellectuelle. C'est indiqué dans la dernière SQRI, Stratégie de recherche en innovation du Québec. Ça ressemblera à quoi, des outils communs en propriété intellectuelle?
Aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire, justement, parce que c'est un des mandats. On est en train de faire la planification stratégique de Québec Innove. Il y a des grands enjeux comme celui-là qui touchent l'ensemble des différents joueurs qui sont membres chez Québec Innove. Mais la façon de le faire, je ne suis pas en mesure de vous le dire aujourd'hui. On est en mesure de cueillir l'information. C'est certain qu'il y a un enjeu clair. Vous avez sûrement entendu ça de d'autres joueurs là, qui sont venus vous parler. Mais aujourd'hui, le comment, on n'est pas là. Ce que je veux faire, justement, c'est de bien m'assurer de comprendre tant au niveau des entreprises, parce que les entreprises, pour elles aussi, il y a un enjeu. Comment je fais pour la garder, ma propriété intellectuelle, ou comment je fais pour travailler avec différents joueurs qui sont les membres chez Québec Innove? Alors, pour moi, je suis en mode écoute, je suis en mode de compréhension. Je rencontre tant les universités, les sociétés de valorisation, les centres collégiaux de transfert de technologie, mais également, je rencontre les entrepreneurs et le milieu économique et social. Alors, c'est difficile pour moi aujourd'hui de vous donner la réponse, mais par contre, je suis en mode analyse, en mode cueillette d'informations, puis c'est pas juste à Québec Innove qu'on doit le faire. Je pense que ça va prendre un grand papier blanc ou travailler ensemble, justement, de la collaboration entre les différents membres de Québec Innove pour arriver à un consensus ou arriver à certaines solutions qui vont, elles, être en mesure d'être bien adaptées auprès des utilisateurs de cette propriété intellectuelle.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que même dans l'accompagnement de l'innovation, il va falloir innover.
Exact. Et c'est un peu ça le rôle de Québec Innove, c'est de trouver des façons différentes de pouvoir assurer cette collaboration-là, parce que c'est très grand, c'est très large. C'est la beauté de la chose chez Québec Innove, c'est que tout est devant nous, tout est créé. Toutefois, il y a plein de bases solides. C'est la richesse de ce qui existe au Québec. C'est l'ensemble de ces différents joueurs-là. Et de travailler, plutôt de travailler individuellement, on veut travailler avec l'ensemble de ces joueurs-là.
Alors, vous parliez de la complexité hein, de l'innovation. Vous devez fédérer toutes sortes d'organismes, toutes sortes de talents dans toutes sortes de domaines, des champs technologiques extrêmement divers. On a parlé d'une possibilité là, autour de la propriété intellectuelle. Est-ce que vous avez des priorités à Québec Innove?
Les priorités pour le moment, c'est vraiment de trouver ensemble qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se différencie en innovation au Québec. Alors, comment est-ce qu'on peut ensemble travailler aux éléments distinctifs du Québec? Alors, comment on peut parler d'innovation globale? Vous avez parlé tantôt là, dans la chronique précédente d'innovation sociale, d'innovation technologique. Alors, ce sont des choses bien différentes une et l'autre. Et dans l'ensemble, la priorité, c'est de démystifier tout ça, de faire en sorte qu'on fasse parler du réseau, mais qu'on fasse connaître aussi les membres de Québec Innove auprès des différents joueurs. Alors, pour faciliter la vie dans un système qui est plus complexe, c'est notre rôle chez Québec Innove. On a des conseillers, donc un poste que vous avez parlé tantôt qui est à combler, d'accompagner les entrepreneurs le plus rapidement possible pour les rendre le plus efficaces et qu'on puisse ensuite parler de commercialisation, puis qu'on puisse mesurer l'ensemble de l'innovation qui est faite au Québec.
Mais alors justement, Isabelle, on vous présente souvent comme l'ambassadrice de l'innovation conçue au Québec.
Made in Québec.
Exactement. Exact. Là, vous l'avez abordé, il y a un savoir-faire finalement au Québec.
C'est une richesse extraordinaire.
Il y a une marque de fabrique finalement de l'innovation faite au Québec. Les ingrédients rapidement, parce que même si effectivement vous êtes dans une tournée, on va en parler, en région pour aller justement recueillir cette information-là, il y a quand même des éléments qui nous distinguent. Si on devait en nommer un ou deux essentiels à vos yeux, ce serait lesquels?
Le talent.
Oui.
Je pense qu'on a vraiment des talents importants en recherche et en innovation. Les universités regorgent de talents internationaux qui viennent également ici. On a des créneaux particuliers aussi sur lesquels on travaille. Je pense à l'intelligence artificielle, entre autres, mais au niveau manufacturier, au niveau du 4.0, il y a des joueurs clés qui travaillent en industrie. Donc, les talents qu'on a au Québec, c'est vraiment une des grandes richesses.
Et là, parce qu'on ne vous a pas choisi non plus au hasard, vous êtes issu du monde des affaires. On parle beaucoup, effectivement, des talents, donc de la formation universitaire. entre autres, mais aussi il y a l'enjeu de la commercialisation. C'est un enjeu, évidemment, on en a parlé avec beaucoup d'acteurs qui sont venus à ce plateau-là, c'est un enjeu majeur, j'imagine que c'est un élément pour vous essentiel dans le mandat que vous avez à la tête de Québec Innov.
Tellement. Et c'est un peu ça l'enjeu, c'est de mettre en lien les gens d'affaires avec les gens qui font, qui produisent l'innovation. Donc, comment on fait pour ceux qui le développent, donc ceux qui pense au savoir de l'innovation, comment on met ces gens-là en lien avec le milieu des affaires qui, historiquement, c'est des milieux qui sont un peu inertiques, effectivement. Ouais. Alors, comment, et c'est ça mon mandat, et donc vous avez raison que j'ai, de mon côté, là, un background qui vient plus du domaine des affaires, mais j'ai eu aussi beaucoup d'expérience au niveau technologique, par exemple, quand j'ai travaillé chez Bell une quinzaine d'années à faire ces projets-là. Donc, mon mandat à moi, c'est de faire que la mayonnaise prenne, si vous voulez, donc entre les gens du milieu des affaires et les gens du milieu éducationnel ou du milieu public au niveau de l'innovation. Alors, comme ils ont des besoins qui s'expriment de façon différente, mais qui, à la finalité, ont réussi à parler des mêmes choses parce qu'ils veulent arriver à la commercialisation, si je parle au niveau des entrepreneurs, mais mes chercheurs aussi veulent voir leurs idées être commercialisé.
Alors, c'est juste de plus en plus d'ailleurs de chercheurs qui veulent devenir des entrepreneurs aussi.
Bon, mais c'est une bonne nouvelle, ça. Alors, en fait, on aura des messages clés et un des mandats chez Québec Innov, c'est de mettre en valeur les membres de Québec Innov qui ont réussi puis qui ont travaillé avec des entrepreneurs et des entreprises pour montrer de quelle façon on peut mesurer et montrer ces belles réalisations-là qu'on a au Québec.
L'exemplarité.
Mais l'exemplarité. Je pense à une entreprise, un membre chez Québec Innov qui s'appelle le CDBQ, qui est le Centre de développement agroalimentaire du Québec, qui travaille avec une entreprise. Par exemple, là, moi, ma fille, elle a 20 ans et elle mange, vous savez, là, le mélange à biscuits crus. Là. Bon, mais ils ont travaillé ensemble avec l'entreprise qui fabrique les biscuits ou la pâte à biscuits crus avec le CDBQ pour trouver la meilleure façon, la meilleure technique, évidemment. On va parler avec des œufs, comment on fonctionne pour s'assurer de la salubrité des ingrédients. Ouais. Donc, c'est un exemple concret qui, dans ma vie à moi, quand j'ai allé visiter le membre de chez Québec Innov, je me suis dit, ben ça, c'est dans ma cuisine à moi.
Ben oui,
Alors, c'est ma fille qui mange son biscuit.
Mais ce que je voulais dire par là, Isabelle, c'est que c'est le modèle, finalement, c'est justement le modèle. C'est-à-dire que toutes ces réussites puissent générer, finalement, des projets et des innovations aussi, par
exemple. Exact, puis de les mettre de l'avant, de montrer. Autant pour un entrepreneur qui a vu un autre entrepreneur réussir, mais aussi pour un membre qui a vu un autre des membres réussir, ben c'est contagieux. Alors, c'est un peu ça aussi notre mandat, c'est de mettre en valeur ces histoires à succès-là ici, mais aussi de le montrer aussi, je pense, à plus grand niveau. Donc, de pouvoir ensemble démontrer c'est quoi ces grands segments-là qui sont porteurs pour le Québec, puis qu'on puisse en parler au restant du Canada, mais aussi à l'international.
Vous venez de faire, Isabelle, une tournée dans différentes régions du Québec. Vous avez visité donc les acteurs de l'innovation en région. Ici, on est à Montréal et on a souvent tendance à croire que ça se passe plutôt dans les plus grandes villes québécoises. Pour le développement régional, l'innovation n'est pas une option. Et pour le Québec dans son ensemble aussi, il a besoin de s'appuyer sur tout son espace économique, finalement. On croit peut-être que l'innovation a besoin de concentration des talents, de concentration d'infrastructures, d'investisseurs pour créer une sorte d'effervescence. Est-ce qu'on peut bien faire avec moins en région?
En fait, ils ont tellement bien réussi. J'ai visité plusieurs régions. J'ai pas fini encore. Là. J'en ai fait 10 sur les 16 régions du Québec. Mais cette collaboration-là, ce tissage-là qui se fait en région, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit porter. C'est une richesse importante. Et je pense que parce que il y a une proximité qui s'installe, les joueurs sont peut-être plus connus entre eux. Il y a un partage, une collaboration qui se dégage certainement. Et je pense que Montréal aurait à s'inspirer de ces joueurs-là. Parce qu'effectivement, il y a peut-être une complicité qui s'est développée, les liens sont serrés et les entreprises en région se connaissent aussi. Ils se voient, ils se côtoient dans différents domaines et ça paraît, ça transparaît dans nos rencontres.
Mais ne nous voilons pas la face, on le sait, hein, la pénurie d'emplois, c'est le problème numéro un de l'heure en région. En dehors du fait qu'il faut former les employés dans différents secteurs aux nouvelles réalités technologiques, dans certaines régions, on trouve personne pour des postes clés. Il faut donc innover aussi.
Et créatif.
Dans les solutions de recrutement, d'attraction et de rétention des talents. Est-ce que là-dedans aussi, Québec Innov, vous pensez faire partie de la solution?
je pense qu'on va être en mesure d'accompagner les gens. Alors, effectivement, quand j'ai rencontré, je pense, une entreprise que j'ai visitée en Beauce qui me parlait justement de la difficulté à recruter des gens, recruter des employés de qualité pour faire des postes aussi de qualité, ils usent d'une créativité et d'une intelligence incroyable. Mais effectivement, les gouvernements doivent aussi aider à trouver des solutions pour accompagner ces entreprises-là pour qu'elles puissent aller à pleine capacité. Il y a certaines entreprises qui ne sont pas capables de faire tout autant qu'ils pourraient faire parce qu'il manque de gens pour livrer la marchandise. Alors, une des entreprises que j'ai rencontrées me disait qu'elle refusait certains des contrats parce qu'elle n'avait pas la main-d'œuvre pour pouvoir le faire. Alors oui, Québec innove, plus on innovera, plus on sera accompagnateur et plus on pourra mettre en lien d'autres entreprises et la créativité qui sont utilisées d'une région versus une autre région. Je pense que cette complicité-là qui va pouvoir se créer entre les différents joueurs, bien à nous de le mettre de l'avant et à nous d'être partie prenante de cette solution-là.
Est-ce que le Québec, aujourd'hui, on est fin 2018, on arrive donc sur une nouvelle année, comme on l'a dit, des résolutions. Le Québec présente aujourd'hui une position de leadership en matière d'innovation, en tout cas c'est ce qui est une volonté affichée. Est-ce que cette position-là, elle est finalement une position qui doit être leader par rapport au reste du Canada?
Je pense qu'il faut travailler. Je parle beaucoup de collaboration, mais je pense pas qu'il faut juste penser à nous. Je pense qu'il faut penser à nous dans un ensemble. Alors, comment on fait le Québec pour se démarquer? Maintenant, la main à nos collègues qui sont au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Puis, qu'on pense à plus grand, les entreprises maintenant parlent pas que de travailler ou d'exporter ou de délivrer qu'au Québec. On a des entreprises qui se retrouvent partout. Et les entreprises innovantes n'ont pas le choix, si elles veulent survivre et se démarquer, de penser à la façon de devenir rentable. Mais je pense aussi aux entreprises d'économie sociale. On a beaucoup parlé d'entreprises là,
technologiques,
mais les entreprises aussi sociales ont besoin de s'inspirer ailleurs, mais ont besoin aussi d'être contagiées auprès de d'autres sociétés ou d'autres provinces. Alors, je ne vois pas ça comme étant un moule fermé, mais certainement comment on peut se sortir, trouver les meilleures valeurs du Québec et les mettre en les disposer un peu partout, mais certainement de ne pas travailler en vase clos, je ne pense pas que c'est une solution.
Donc, pas de compétition, de la complémentarité.
Exact.
C'est ça?
Collaboration, c'est le mot d'ordre.
Merci Isabelle Foisy. Je rappelle, vous êtes présidente de Québec Innove, le réseau québécois qui réunit l'expertise en recherche et en innovation. Merci d'être venue au plateau de Célèbdo.
Grand plaisir, joyeuse fête.
Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte sur ces quelques notes de Christmas is coming. Alors, je ne sais pas pourquoi un tel choix, évidemment. On se demande, on se pose la question. C'est signé le Vince Guaraldi Trio. J'espère que je le prononce vraiment bien. C'est le choix de qui? Ah, c'est le choix de Eve qui a besoin de rappeler qu'elle a envoyé sa lettre au Père Noël et qui faillote, donc évidemment. C'est une chanson extraite du populaire disque Charlie Brown Christmas et c'est notre recommandation pour vos travaux de recherche en labo durant le temps des fêtes. Merci Émilie A, merci Émilie L, merci Audrey, merci encore une fois Isabelle Foisy d'avoir été des nôtres cette semaine à la réalisation technique Nchiche Doumbia et toute l'équipe de GTS, à la recherche Émilie Laurenceau et à la coordination plateau Eve, Jasmin, Philippe New au micro. C'est l'hebdo, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous le 10 janvier prochain. On fait notre grosse pause des confiseurs. D'ici là, excellente fête de fin d'année à tous. On se retrouve en pleine forme en 2019.